7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Direction le Kenya ce soir où les médecins du service public sont en conflit ouvert avec le gouvernement. Une grève qui dure, Olivier, depuis pratiquement 3 mois.
Résultat, la quasi-totalité des Kenyans se retrouvent actuellement sans aucune couverture de santé. Et plus le temps passe, plus la situation se dégrade dans les hôpitaux, dans les cliniques désertées par les docteurs. Les patients en phase terminale sont renvoyés chez eux. Les accouchements se font à la maison sans aucune assistance. On parle déjà de centaines de victimes collatérales. Pour évoquer cette situation d'urgence, Bruno Meyerfeld, notre correspondant au Kenya, est en ligne. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Bruno, vous avez rencontré l'une des victimes de cette grève interminable.
Oui, il s'appelle Ronald Odhiambo, il a 32 ans, il est marié et son premier fils, John, est né le 5 décembre, le jour où la grève des médecins a commencé. Mais l'accouchement ne s'est pas passé comme prévu.
À la naissance, le ventre de mon fils était très gonflé, sa peau toute distendue, il souffrait. On n'osait à peine le toucher, il battait des bras et n'arrêtait pas de crier.
Ronald et son épouse découvrent que les reins et l'urètre de leur fils sont bloqués, qu'il faut opérer en urgence, mais impossible pour eux de payer une clinique privée. Les semaines passent et l'état du bébé empire.
En revenant du travail, j'ai retrouvé mon fils dans un état critique. J'ai couru à l'hôpital public. Ils m'ont dit que mon enfant devait être opéré le plus vite possible. Mais aucun docteur n'était là. On a essayé de les appeler, mais aucun ne répondait. On ne pouvait rien faire. Alors avec ma femme, nous nous sommes mis à prier de toutes nos forces. On disait à Dieu, il n'y a plus que toi qui puisses nous aider. Mais aucun docteur n'est venu et mon fils est mort juste comme ça.
Et malheureusement, Bruno, on ne parle pas d'un cas isolé, hein.
Non, pas du tout. Et pour se rendre compte de la situation, il faut se rendre à l'hôpital public Kenyatta de Nairobi. C'est le plus grand du pays, le mieux équipé aussi. Mais depuis 3 mois, il est à l'arrêt. Des brancards s'entassent au soleil, des patients errent dans les couloirs. Moses Osani de l'association du cancer du Kenya m'emmène dans la salle des chimiothérapies. Il n'y en a que 2 comme celle-ci dans tout le secteur public au Kenya. Mais aujourd'hui, faute de docteurs, elle est complètement vide.
Pour administrer une chimiothérapie, il est indispensable d'avoir l'assistance d'un docteur. Malheureusement, plusieurs personnes sont mortes car ils n'ont pas pu terminer leur traitement à cause de la grève. À l'hôpital Kenyatta, les patients dépendants du secteur public sont renvoyés de force chez eux.
Alors malgré un prix très élevé, quelques milliers de Kenyans tentent malgré tout leur chance dans les cliniques privées du pays. Mais plusieurs sont déjà complètement débordés et se sont même mis en grève, rappelle Moses Osani.
Dans le secteur privé, ils sont débordés et en sous-effectif. Je connais des patients très pauvres qui vont quand même essayer de se faire soigner dans le privé. Mais dans certains endroits, quand on se rend compte qu'ils ne peuvent pas payer les soins qu'ils ont reçus, on les retient de force de l'hôpital jusqu'à ce que quelqu'un de leur famille leur vienne en aide.
Alors Bruno, que demandent les syndicats de médecins ?
Alors ils exigent la mise en place d'un accord signé en 2013 avec le gouvernement. Celui-ci prévoit une rénovation des hôpitaux et une hausse des salaires. Il faut savoir qu'au Kenya, un docteur diplômé gagne entre 350 et 1000 euros maximum par mois, avec des semaines qui dépassent parfois les 100 heures de travail. Alors pas question de lâcher, explique Uma Oluga, secrétaire général de la KMPDU, le syndicat qui a appelé à la grève.
Nous avons une immense compassion pour les patients. Nous comprenons leur douleur et nous l'éprouvons nous aussi. Mais nous nous battons pour que les conditions de santé s'améliorent pour tous, pour qu'aucun Kenyan n'ait plus à attendre des heures à l'hôpital pour voir un docteur, lui-même totalement épuisé. C'est pour les Kenyans qu'on mène cette bataille. Il faudrait justement que le grand public mette davantage de pression sur le gouvernement pour que cette grève se termine, qu'on puisse retourner à l'hôpital et que tout rentre dans l'ordre.
Alors, la fin de la grève, Uma Oluga le dit, elle n'est a priori pas pour demain. Le syndicat négocie avec l'État, mais les désaccords sont encore très nombreux. En attendant, les patients souffrent en silence, du moins pour l'instant.
Les conséquences effroyables du conflit social des médecins kényans. Reportage de notre correspondant à Nairobi, Bruno Meyerfeld.
Et on file au Mexique, Olivier, pour une idée assez singulière de tourisme thématique.
Le Corruptour, Nicolas, vient d'être lancé à Mexico. Alors, il s'agit d'un bus, un peu comme ceux qui offrent des vues à ciel ouvert dans toutes les capitales du monde. Mais ce bus mexicain parcourt, lui, les lieux emblématiques de la corruption. Ça se passe tous les dimanches. Une vingtaine de passagers embarquent pour une balade informative d'une heure et demie à travers les symboles de la déchéance du système politique. Notre correspondante à Mexico, Emmanuel Stil, nous emmène faire un tour.
Bienvenue à cette balade très spéciale, j'ai nommé le Corruptour. Un ancien bus scolaire, un peu déglingué, se ferait un passage dans le trafic du dimanche après-midi dans le bois de Chapultepec. C'est un nouveau concept de tour thématique à travers Mexico. Un bus au toit ouvert, 25 passagers à bord et un parcours comprenant 10 étapes qui invite à réfléchir sur la corruption, la principale préoccupation des Mexicains. Après une brève introduction, le bus entame une incursion dans le quartier très huppé de Las Lomas. Première halte, le Corruptour tape fort à l'échelon le plus élevé du pouvoir. La Casa Blanca, la Maison Blanche, c'est une majestueuse villa, propriété de l'épouse du président Enrique Peña Nieto, l'ancienne star des telenovelas Angélica Rivera. Le couple y habitait au début du mandat présidentiel, jusqu'en 2014, lorsque le scandale éclate. Cette demeure, d'une valeur de 7 millions de dollars, est au nom d'une entreprise de construction, prestataire de l'État, qui avait décroché le contrat pour construire la première ligne de TGV au Mexique. Le président demanda pardon publiquement, sans jamais reconnaître le conflit d'intérêts. Attention, dit la guide du Corruptour, le but de ce parcours n'est pas de vous décourager, il s'agit plutôt de prendre conscience de la corruption et de ne pas y participer. Le bus se dirige ensuite vers plusieurs dépendances du gouvernement où d'autres affaires troubles ont éclaté ces dernières années. Sur un rond-point de l'avenue Reforma, l'anti-monument est en réalité un hommage aux victimes de disparition. Le chiffre 43, en grandes lettres rouges, rappelle les 43 étudiants disparus en 2014 dans le sud du Mexique, aux mains de policiers municipaux complices d'un cartel de narcotrafiquants. Lorsque le bus parvient devant le ministère de l'Intérieur, un commentaire humoristique est lancé pour expliquer les complicités dont a bénéficié le baron de la drogue, Joaquín Guzmán, dit El Chapo, pour s'évader de prison par un tunnel partant de la douche de sa cellule. Gerardo, un jeune architecte, nous explique qu'il est révolté par le système politique actuel.
Ce qui me rend le plus triste, c'est le problème du trafic de drogue. C'est toujours la même histoire. Les narcotrafiquants s'enrichissent, ils acquièrent un pouvoir grandissant et ils finissent par devenir nos gouvernants. Donc nous sommes gouvernés par des fous.
Le bus s'arrête devant Televisa, le groupe médiatique qui a construit l'image du couple présidentiel. Finalement, le Corruptour propose aux participants quelques actions concrètes pour agir au quotidien contre la corruption. Et ceux-ci abandonnent le bus, partagé entre l'amusement et le dépit.
Voilà, incroyable. Le premier tour opérateur contre la corruption. Incroyable, effectivement. Une invention mexicaine, un reportage signé Emmanuel Stills.
Et une autre initiative pour dénoncer la corruption, Olivier, qui nous vient cette fois-ci du Brésil.
Presque une évidence, Nicolas, le Brésil, où une grande partie de la classe politique est éclaboussée par le scandale Petrobras, l'école de samba de San Clemente a choisi cette année comme thème de défilé l'histoire du surintendant Nicolas Fouquet, accusé de corruption par Louis XIV et emprisonné jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, à défaut de pouvoir... à défaut de pouvoir condamner toute leur classe politique, Nicolas, les Brésiliens se défouleront sur la piste du Sambodrome de Rio, notamment au rythme du carnaval.
Olivier Poujade, merci, 18h49. Hey